Mais écoutez, nous allons commencer tout de suite. Donc, je suppose que nous commençons à l'heure. C'est tout à fait remarquable. C'est bien d'essayer. Alors, vous avez remarqué que l'heure matinale, mais bien ensoleillée, enfin, qui était supposée être bien ensoleillée, était choisie exprès pour tenir autant que possible à l'écart la horde redoutable de zombies, fantômes et autres créatures intermédiaires de monde entre deux qui nous envahit aujourd'hui, mais qui nous envahit quand même à notre plus grand plaisir, parce que nous avons à voir des choses, des livres étonnants, des livres intrigants, des livres franchement réjouissants, et certains sont tout ça à la fois. Donc nous allons avoir, notre plateau se compose donc de Nina Allan qui est déjà venue hier et qui revient aujourd'hui pour Complications, pas forcément un livre de zombies ou de revenants, mais un livre entre plusieurs mondes et où on se repère parfois en se demandant à quel moment du passé, du présent, de l'avenir et quelle est la réalité des personnes que l'on rencontre dans ces pages. Nous avons ensuite, c'est Villeminot, hein, c'est Autrey. Alors là, c'est le piège absolu, on y tombe toujours dedans, donc il y a Autrey. Donc pour un livre qui va faire, j'espère bien, trembler et surtout trembler de rire tous les Malouins, vous ne verrez jamais plus un goéland du même œil quand vous allez ressortir. Ensuite, le titre, je voudrais voir le titre du livre s'il vous plaît, parce que j'ai le... Alors c'est Ma famille normale contre les zombies, mais c'est une série de la famille normale qui rencontre tout ce que les mondes intermédiaires peuvent nous lancer dans les pattes. C'est le premier tome, mais la suite est en cours. Voilà. Ensuite, nous avons... Nous avons Jérôme... On dit Noiret ou Noirez ? Noirez, pour Brainless. Malgré le titre, il faut quand même un vrai cerveau pour écrire des livres comme ça. Pierre Dubois, qui a deux livres, donc l'effroyable Encyclopédie des revenants, qui fait suite à celle des fantômes, et qui a aussi une bande dessinée qui est adaptée d'un livre plus ancien, même titre, Capitaine Trèfle, une création, un personnage créé par Pierre, et le délicieux, charmant et le plus... Je parle du livre, je sens que j'ai toujours un peu de mal avec les gens du Sud comme ça, non, et ça doit être bien une fois réveillé, celui qui colle à l'actualité, Billy Brouillard. Voilà, donc je vais, c'est le cas, ben oui, c'était exprès, donc on va commencer par le Malouin de service. Comment... Le livre Malouin de service, donc nous allons commencer par par Parium, pour lui demander comment une ville comme Saint-Malo, dans laquelle à la limite on pourrait imaginer quelques revenants traînant une patte de bois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous-même avez été attaqué par un virus pour développer une telle fiction, fantaisie?
Alors, ce qu'il faut dire, bien que ça a l'air tout à fait extravagant et improbable, c'est que tout est vrai dans ce livre. C'est une histoire vraie, c'est la chronique vraie d'un événement vécu par...
J'en doute pas.
Voilà, par Vincent Villeminot, qui est donc l'auteur, et moi je me suis joint à lui pour développer un peu l'adaptation du texte en roman graphique. Voilà, et donc l'anecdote de départ de ce livre, qui est tout à fait réelle, je vous le confirme, c'est qu'il était effectivement, ils viennent en vacances à Saint-Malo régulièrement parce qu'ils ont de la famille à Saint-Malo, les grands-parents. Et donc, comme tous les ans, ils sont venus en vacances, c'est l'été il y a 2 ans, donc, à Saint-Malo. La jeune fille avec les 3 enfants, donc la famille normale et la famille existent tout à fait, les personnages sont tout à fait conformes, si j'ose dire, à ce qu'on peut voir dans le livre. Comme c'est relaté dans le livre, les enfants à peine arrivés se sont précipités vers la plage. Et comme c'est raconté dans le livre, l'aîné a trébuché, oui, est tombé et s'est cassé le coude. Oui. Cavalcade à l'hôpital Saint-Malo. À l'hôpital, fracture du coude, donc hospitalisation pendant quelques jours. Et pendant une visite dans la chambre de sa fille, une mouette est venue s'écraser contre la vitre de la chambre. Voilà. Et donc il n'a fait aucun doute pour aucun des personnes qui ont assisté à l'événement que cette mouette avait été contaminée par un virus zombie, et donc l'histoire est partie de là, voilà. Donc cet événement réel, c'est le point de départ de
le point
livre,
de départ
c'est
est
cet
réel.
Événement réel.
Et enfin, on va quand même bien au-delà du coup de cassé.
Voilà, comme quoi un coup de cassé peut avoir des conséquences tout à fait inattendu. Voilà, donc il s'est mis à raconter effectivement cette histoire, d'abord pour s'amuser en famille, quoi. Et puis est né ce texte, ce roman, voilà, où cette mouette zombie, évidemment ces mouettes zombies ont contaminé forcément tout Saint-Malo.
Tout Saint-Malo, et même un membre de la famille. Si...
Alors les membres de la famille, voilà, la petite fille, la petite dernière a été contaminée, oui. Devenue un bébé zombie, voilà, et... Et les grands-parents eux-mêmes sont devenus zombies. Enfin, c'est une hécatombe, donc c'est un livre absolument épouvantable. Et quand on sait que c'est une histoire vraie, c'est évidemment.
Et c'est totalement joyeux, c'est bourré de jeux de mots.
C'est totalement joyeux,
approximatif qu'on peut le souhaiter.
C'est un livre à plusieurs strates, à plusieurs niveaux, en fait. C'est à la fois la parodie et la satire. Sous le prétexte de cette petite anecdote familiale d'un genre très normé de l'industrie culturelle et des croyances populaires anciennes, qui est celui des morts-vivants, qui est un genre très, très, très normé. Et c'est l'occasion, derrière la fantaisie assumée, l'extravagance tout à fait revendiquée, de, à la fois d'une chronique familiale à s'étendre sous la fantaisie et aussi de brasser une quantité de thèmes. C'est un livre qui est fait de collages à tous les niveaux. Voilà, il y a un collage de thèmes, de thématiques abordées. Oui. Il y a un collage de registres littéraires, puisqu'il y a à la fois une grande désinvolture dans la narration, puisque c'est une parodie, donc il n'est pas question de raconter une bonne histoire originale, mais plutôt de recenser les figures de style.
Et de pousser au bout, quelquefois.
Et de les moquer, en quelque sorte. Mais sont convoqués tout un amour de la langue, puisque le texte est écrit dans une langue éminemment littéraire.
Oui. Sont
convoqués à la fois tous les référents de la culture populaire, les plus triviaux parfois, mais aussi Chateaubriand, Cyrano de Bergerac, Molière, Corneille, etc. sont là. Et c'est pour ça que graphiquement aussi, à ce collage littéraire, devait faire écho des collages graphiques, voilà, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que le dessin et l'adaptation, et c'est pour ça que ce n'est pas un roman illustré en quelque sorte, parce que ça n'avait pas de sens d'illustrer ce texte et il fallait le nourrir.
Il fallait faire quelque chose à côté qui soit dans le. Voilà.
Il fallait l'habiller,
qui chemine avec.
Il fallait construire quelque chose autour du texte, lui faire un écrin qui emmène l'histoire dans des directions.
Et c'est vrai qu'on a encore une autre lecture quand on voit les dessins.
Voilà, complètement. Et donc les dessins eux-mêmes convoquent, à la fois les dessins originaux que j'ai faits convoquent des registres différents, c'est-à-dire un dessin plus rond pour mettre en scène la famille qui relève de la fantaisie familiale, un dessin plus âpre avec des outils plus acérés pour toutes les scènes de combat avec les zombies, et puis même l'irruption de gravures, d'images anciennes.
Oui, avec du noir, avec des choses très.
Voilà, alors à la fois.
De manière noire.
Qui sont là à la fois pour entretenir le jeu, cette idée que toute la violence. Il y a une tension permanente dans ce livre entre la déréalisation, c'est-à-dire le jeu, le pastiche, la parodie, et en même temps le traitement d'un thème qu'implique le traitement du thème du zombie, qui est celui de la violence, qui est la vérité du monde, en quelque sorte, de la violence de notre condition, précaire et mortelle. Et aussi la violence du monde social, du monde historique. Alors ces images, ces gravures ne sont pas là dans un but décoratif. D'autres dessinateurs ont pratiqué l'irruption de gravures anciennes dans des dessins, des très grands dessinateurs. Le procédé en lui-même n'est pas original. Mais il m'a semblé que dans cette histoire qui brasse tous ces thèmes, que c'était bien de faire intervenir des images qui sont elles-mêmes des images mortes, des images mortes vivantes, et qu'il fallait les exhumer, qu'elles venaient. Je rappelais un petit peu le thème. Mais dessiner des zombies, d'une manière générale, au-delà de la satire de ce genre très normé dont je parlais, c'est aussi, encore une fois, renouer le dialogue avec les grands dessinateurs du passé ou les grands auteurs qui ont traité de cette violence dont je parlais. Et dessiner des zombies, c'est se souvenir des suppliciés de la guerre de 14 dessinés par Autodix, par exemple. Et c'est tout ça que ça brasse aussi, finalement, comme imagerie et comme mémoire. Et donc c'est pour ça que c'est un livre qui est fait par strates. Là j'ai l'air d'en parler un peu gravement, c'est un livre où on rit, j'espère, du début à la fin.
On rit beaucoup quand même.
Mais
oui.
Voilà, tout ça est très présent, à la fois dans l'esprit de l'auteur Vincent Vimino et dans le mien qu'on a travaillé ensemble sur la construction.
Ce qui revient à ce qu'on disait hier sur un autre dialogue, c'est qu'un mot, une phrase ou un trait demande parfois des années d'acquis et de mémoire.
Il y a toute une mémoire derrière.
Il y a toute une mémoire.
C'est très important,
voilà.
Sous-jacente et qui affleure.
Et même si le lecteur ou le spectateur ne le voit pas, ça se perçoit de façon.
Même s'il ne l'identifie pas, il le ressent.
Exactement.
C'est pour ça qu'il y a aussi tout ce tissu référentiel, à la fois littéraire, graphique et thématique, constitue le fait qu'il y a les lecteurs qui vont l'identifier et qui vont entrer en connivence, mais il y a un niveau de lecture qui fait qu'on peut passer et ressentir qu'il y a quelque chose, mais ça ne freine pas dans la lecture. C'est pour ça que des lecteurs très différents peuvent, je crois,
lire un livre très différent.
Voilà.
Oui.
Et effectivement, lire un livre très différent à chaque fois.
Bien, écoutez, il semble que les adolescents et les épidémies étranges frappent dur en ce moment, parce qu'avec Brainless, on a quand même affaire à un autre type de problème zombifiant, zombificateur, comment dit-on ?
Problème zombificateur, c'est bien.
C'est bien.
C'est de la novlangue, mais c'est
ah bien. Ah, de toute façon, il en faut. Donc, vous-même, vous avez attaqué aussi sur ce domaine du zombie, mais alors sur tout à fait un autre mode, encore dans un environnement adolescent. Alors, déjà, sans les zombies, l'environnement adolescent est particulièrement réussi.
Oui, on n'a pas besoin des zombies. Il y a déjà une part de zombification dans un collège et un lycée. Donc,
qui est au collège dans la salle? Parce que... Et qui est au lycée? On va se vider la moitié de la salle.
Mais non, ils sont d'accord avec moi. Brainless, c'était aussi l'envie d'aborder un genre qui est un genre cinématographique, pas les zombies. On sait bien que les zombies sont un genre cinématographique majeur, mais moi j'avais envie de faire une teen comédie qui est un truc typiquement américain, me semble-t-il, avec son lot de puceaux, d'ados se masturbant,
de filles canon, un peu
de
canon.
Cheerleader abrutis, de joueurs de football américain décérébrés, etc. quoi. Je voulais tout ce registre-là, qui est un registre à la fois provocateur, en fait. Je trouve les films, les teen comedies très hard aux États-Unis, très osés. On n'oserait pas faire ça en France, au niveau de la sexualité. Et puis très cruel, très souvent,
et très méprisante quand on les regarde.
De cruauté, oui. Voilà, oui. Et évidemment, le zombie est presque un petit joueur hein, au milieu de cet enfer. Puis bon, d'une ville américaine, d'une petite ville américaine, Vermilion, avec son lot de bouseux quand même, de concours débiles, du plus gros mangeur de maïs, etc. Voilà.
Mais vous y réunissez d'autres choses tout à fait dramatiques, comme les tueries.
Oui, alors effectivement, il y a une magnifique tuerie scolaire à la fin, mais je l'ai pas traité de manière dramatique, parce qu'à ce moment-là, j'aurais fait un livre entièrement consacré à ça, quoi. Et bon, après Elephant de Gus Van Sant, je trouvais assez vain
de repasser
derrière. Donc j'ai fait quelque chose qu'on me reprochera évidemment, mais je l'ai fait pour ça d'ailleurs. J'ai fait un massacre jubilatoire, quoi, une espèce de climax gore où la violence est gratuite, bête et méchante, parce que les ados adorent ça, ouais, tout simplement. Et moi aussi.
Et ça défoule d'écrire ça?
Alors, ça défoule, mais j'ai atteint une limite, en fait, en écrivant tout ce final, qui s'appelle d'ailleurs classé R, simplement, hein, comme la classification des films d'épouvante américains. C'est-à-dire, vers la fin, j'ai ressenti moi-même une nausée, et je me suis dit, bah, c'est bien.
Suffit.
C'est que je suis arrivé...
Là,
parce que le gore peut être drôle, mais il faut arriver à un certain niveau de nausée, qu'il ne faut pas dépasser non plus, parce que c'est sale sur le livre ensuite. Voilà, j'avais atteint ce degré de nausée en l'écrivant, donc j'espère que le lectorat aussi...
Donc si je peux oser un rapproche mardi, le gore c'est comme la crème chantilly, quoi.
Oui, tout à fait, absolument, c'est ça.
Il faut arrêter, quoi.
De toute façon, c'est effectivement extrêmement culinaire, le gore, en fait. Hein.
Voilà. Voilà. Je trouve aussi, au passage, que vous avez un proviseur absolument exceptionnel.
Oui, c'est un psychopathe. C'est un véritable psychopathe qui réunit ce qui me semble être deux qualités fondamentales pour un proviseur, c'est-à-dire la haine des élèves et la haine des professeurs. Et il la manifeste, il vient même avec un flingue hein, au lycée, c'est un psychopathe absolu.
Oui, à un moment il se dit qu'il devrait ajouter les parents d'élèves d'ailleurs à la liste des...
Il ajoute les parents d'élèves et puis l'administration, il est raciste, il est homophobe, il est donc zombiphobe aussi, puisque le fait d'accueillir... Le zombie est une créature quasi traitée de manière quasi normale hein, dans ce roman.
Parce qu'il y a une épidémie,
roman.
C'est ça, il est pas voilà. Y a
voilà,
ce côté,
et bien, c'est une épidémie gérée, c'est-à-dire c'est pas du tout une quelque chose de pré-apocalyptique ou une invasion comme Walking Dead, etc. Non, non, c'est bah, finalement la société, elle s'y est faite. Ça porte un nom médical.
On sait combien il y en a.
On essaye de les oui. intégrer à l'école, mais bon, des fois ça dérape un peu quand même. Hein.
Et il y a quand même une histoire d'amour.
Et il y a une magnifique love story qui m'a permis quand même d'écrire une scène je n'avais pas osé utiliser le terme, mais dans une rencontre il y a quelques jours, on m'a dit quand même, vous avez écrit une scène de nécrophilie. Et donc c'est peut-être la première scène de nécrophilie dans la littérature jeunesse, et j'en suis assez fier en fait.
On peut l'analyser comme ça.
On ne la lit pas comme ça. Ah moi je l'ai pas lu, je l'ai pas écrit comme ça.
On ne la lit pas comme ça.
Certains si, mais vous savez il y a des pervers.
Exactement, ouais. Des grands tordus.
Oui.
Écoutez, donc Brainless, comme le précédent, vivement recommandé, sont des livres peu courants, je trouve. C'est des livres qui vous surprennent dans un domaine où parfois on a un peu moins de surprises, je trouve, depuis quelques temps. Et alors, dans les surprises aussi, bon, il y a quelques années qu'on a été surpris, mais on l'est toujours. Eh bien, je suis désolée, hein, il va falloir lâcher ce téléphone.
Ah oui, bah non, je vous écoute, hein,
attends. Non, mais...
C'était le tour de Pierre Dubois, en fait.
Non, 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 c'est...
Après, c'est dur de passer
ça serait trop simple, hein, si c'était dans l'ordre. Je suis comme le proviseur vicieux, là, je ne fais pas ce que les élèves attendent. Donc voilà, dans les choses très surprenantes et très... qui nous ont, depuis quelques années, vraiment fait un grand plaisir à découvrir, il y a ces albums, je dis bien ces albums, parce que là, je n'en ai qu'un, mais il y en a une série, de Billy Brouillard. Alors, Billy Brouillard, c'est votre... c'est ta... On s'est tutoyé à 5 minutes,
oui,
on peut continuer.
Peut, oui.
C'est ta création ? Toi tout seul ?
Oui, c'est ma création. Enfin, ma création, c'est un peu mon avatar. Moi, j'aime pas trop dire création parce qu'on a l'impression qu'on s'octroie un truc un peu divin. Quoi.
Ah, monsieur, oui, mais pourquoi pas ?
C'est plus, les copains le confirmeront. C'est nos petits-enfants, nos livres. C'est un petit peu nous, c'est une partie de nous. Donc, oui, ma création, on dirait que c'est, enfin, plutôt que c'est mon double ou moi enfant. Ou un
toi
truc
enfant,
comme ça,
ou ouais. Ce que tu aurais pu être. Oui.
Voilà, ce que j'ai été, parce que c'est pas mal autobiographique derrière les airs un petit peu. Fantasmagorie, qui a aussi un fond évidemment de vérité. On part toujours de ce qu'on connaît, de soi. Enfin bon, c'est toujours. On part toujours de son nombril, hein, finalement.
Oui.
Plus ou moins. Enfin, je crois.
Oui.
Je pense.
Oui. Il est toujours un peu là. C'est vrai. Tu as raison. Non, on n'a pas le premier album qui avait où on parlait de cette très jolie formulation qui était le don de trouble vue.
Le trouble vue, oui.
Tu peux nous.
Le don de trouble vue, c'est quoi ? C'est Pierre Dubois pourrait en parler aussi. Il a plein de trucs de trouble vue dans tes ouvrages. Moi, je trouve que tu es vachement proche de ça. Enfin, d'ailleurs, moi, c'est une influence. Pierre Dubois, je le lisais quand j'étais tout petit. Et il n'a pas changé. Il est toujours pareil.
Après, ça fait toujours plaisir. Hein. Ça fait toujours plaisir. Je vous admire. Maman vous admirait déjà quand elle était toute petite.
Oh, ça fait plaisir. Non, c'était bienveillant. Hein. Oh, je suis béni, ça y est. Qu'est-ce que je disais ? Moi, oui, le trouble vu, c'est Billy Brouillard, donc un petit garçon de 7-8 ans. Lorsqu'il enlève ses lunettes, bah, il voit tout flou. Donc, les adultes lui disent tout simplement qu'il faut porter ses lunettes, qu'il faut être un garçon bien comme il faut, rentrer dans la réalité des adultes. Et puis, Billy Brouillard se demande, c'est un peu comme moi enfant quand j'ai eu mes premières lunettes, j'étais vachement complexé, je me suis posé la question, je me suis dit, mais la vraie vue, c'est quoi en fait ? C'est ce que je vois derrière mes carreaux là, bien net, ou c'est ma vue, ma vision un petit peu de myope que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Je me retrouve un petit peu dans le brouillard avec vous. Ce matin, je trouve qu'il y a ça un côté rassurant. Donc voilà, donc c'est un peu la métaphore de l'imaginaire et du refus aussi de vouloir voir le monde autour normé des adultes, rigoureux, sérieux, etc. Donc... c'est un petit peu le pouvoir de l'imaginaire et de l'enfance, selon le trouble vu. Ça part d'un handicap, finalement. Il décide d'en faire un super pouvoir, car c'est un petit super-héros, et tous les garçons et les petites filles sont des super-héros. On devient un peu sérieux en grandissant, on perd un peu ce pouvoir, c'est dommage. Et Billy...
Il va le perdre
à la fin
très
de ce bouquin.
Très vite, d'ailleurs,
oui. Non, au début de ce bouquin, je ne sais plus. Ouais, c'est ça. Non, dans le précédent.
Il l'a déjà perdu, là.
Voilà, il l'a perdu.
Dans le Père Noël qu'il le perd.
Et c'est l'histoire de comment il le retrouve.
Voilà, ouais, c'est ça. Exactement. C'est dans le Père Noël qu'il le perd.
Je suis perdu, moi aussi. Hein.
Oui, bah...
Mais je ne suis pas réveillé, en fait. Je suis désolé. C'est très bizarre d'être là ce matin. Dis-moi.
Question très, 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 très pratique. Quand on fait un livre de cette... c'est quand même un gros livre. Tu as dessiné, tu fais tout.
Voilà, j'ai fait l'histoire, les dessins, et ensuite il y a quelqu'un qui m'aide, Jean-Luc Deglin, d'ailleurs un ami qui, de longue date, qui m'aide pour faire les maquettes, c'est-à-dire la mise en page, du livre. Ouais.
C'est une question très terre à terre, mais moi quand même, je me la demande toujours, combien de temps tu passes sur un album comme ça?
Ça dépend de... Disons que je ne fais pas que ça, je fais d'autres trucs, je fais d'autres bouquins, puis il faut que j'aille au bistrot, que j'aille voir les copains. Oui, aussi. Non, donc ça, c'est toujours très dur d'établir...
Et de temps en temps, tu dors, je m'en doute.
De temps en temps, je dors aussi. Bon, je ne sais pas, ça doit varier entre 6 mois et 1 an, mais tout mis à bout, ça doit être quoi, je sais pas, 4-5 mois, 6 mois, je ne sais pas.
Oui,
je ne sais pas dire, en fait.
Si c'est 4-5 mois, c'est remarquable. Hein, parce que...
Oui, non, mais 4-5 mois, si on travaillait sans s'arrêter.
Même en continu, je trouve quand même qu'il y a du... Enfin, ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, vous allez foncer sur les stands le voir et vous vous rendrez compte que...
Quelle pub, merci.
Oui, et il y a une exposition aussi.
Ah oui, une exposition au Palais du Grand Large.
Au Palais du Grand Large, au niveau de la Rotonde. Et donc tu as aussi une encyclopédie.
Et il y a aussi une encyclopédie. Alors, ouais, c'est compliqué, mais en fait, c'est dur de parler le matin. Moi, j'ai vraiment du mal. Si vous voulez, c'est un triptyque. Et ensuite, il y a des petits dérivés. Alors, plutôt que de faire une histoire à rallonge de 72 tomes à la Boule et Bille, finalement, j'ai préféré, plutôt que de m'étendre en longueur, de m'étendre en profondeur. C'est-à-dire, voilà, ça, c'est le troisième bouquin du triptyque. Et ensuite, il y a tous les petits dérivés qu'on peut trouver sous forme... Il y a des formes narratives différentes dans le bouquin. Et je les développe, par ailleurs, dans une autre série d'ouvrages, oui. Des encyclopédies, des petits contes malfaisants, aussi, qui sont les livres de chevet de Billy Brouillard. Ce sont des petits compléments à sa vie et à son imaginaire.
Parce que là, tu dis, c'est le troisième volume du triptyque. Donc, Billy Brouillard, ça y est ?
Billy Brouillard, en fait, c'est un triptyque.
Voilà.
Et ensuite, il y a après... que des triptyques du triptyque, si tu veux. Ce sont des livres satellites, oui. En fait. Voilà, c'est un nouveau concept. C'est très bizarre. Mais je voulais éviter vraiment les trucs à rallonge. Billy Brouillard à la plage, Billy Brouillard à Malodan. Oui. Je voulais. Enfin, voilà.
Vous voudrez croiser Martine, d'ailleurs.
Voilà, Martine.
Bien. Voilà, ça aurait été très, très bien.
Et Caroline.
Alors là, nous allons changer radicalement d'univers. Nous allons passer à Nina. Et je voudrais qu'on montre le livre qui est là, qui est Complication, qui ne vous fiez pas au fait que le livre n'est pas très épais. Il va vous entraîner dans toutes les dimensions possibles, c'est-à-dire dans le temps et dans l'espace. Au début, si vous êtes un lecteur normal, comme je pense être, vous allez vous demander pendant un chapitre, peut-être deux, si vous êtes dans un genre, dans un recueil de nouvelles, dans un roman. Je crois que là, il y a une création d'un genre intermédiaire, et puisqu'on est dans les entremondes, c'est le moment d'en parler. Et j'ai été tout à fait personnellement fascinée et happée par ce qui, sur les 10 premières pages, m'a perdue. Et ensuite, tout s'est mis à se construire et il y a une construction absolument fascinante. Vous imaginez une espèce de grande étoile qui se forme dans l'espace où tout va se raccrocher à des périodes différentes et à des temps différents. Vous avez l'intuition parfois que ça se recoupe, d'autres fois pas. Tout va se placer et tout s'harmonise autour du jeu, tout tourne autour du mouvement, d'une horloge. Il y a toujours une horloge. Alors j'aurais déjà voulu demander à Nina cette construction-là, qui était latente un petit peu, peut-être dans certains ouvrages précédents, mais qui l'a très accompli. Cette construction-là, pourquoi en est-elle venue là, à ce genre, entre qui n'est pas un recueil de nouvelles, qui est un roman quand même, mais qui relève beaucoup du premier genre?
First of all, I'd like to say something about zombies and ghosts. We've been talking a lot about zombies this morning, and somebody mentioned that they are, for whatever reason, I don't know what we can draw from this, they're an American invention, a more English manifestation of the fantastic is the ghost. English ghost stories have been famous for hundreds of years, and I think it's the English sense of history and their own history and the links between the present and the past that make the ghost an especially favoured expression of the supernatural and the fantastic in English literature.
Je pense qu'il faut quand même dire quelque chose à propos des zombies et des fantômes. On en a parlé plusieurs fois ce matin, et je crois qu'on en a parlé pour différentes raisons, mais il s'agit quand même de quelque chose, le zombie, qui appartient plutôt à l'imaginaire américain. Il y a, par contre, dans la littérature anglaise, quelque chose qui est plus lié à notre culture, et ce sont les fantômes. Ça fait des centaines d'années que dans notre pays, on parle de fantômes, et je crois que c'est vraiment pour les Anglais le sens même de l'histoire, ce rapport entre le présent et le passé, qui a donc en quelque sorte favorisé l'émergence du fantôme dans la littérature fantastique et supernaturel de notre pays.
And in this book, Complication, one of the characters thinks up a particularly intriguing explanation for ghosts. He says that they're not actually the spirits of the dead, but that what they are our almost subconscious perception of people inhabiting a different time stream, a different universe maybe, that is rubbing up against ours, and we can very dimly perceive the people on the other side of the wall of time. And he says that this is the explanation for ghosts. And this is what Complication is all about. It's about time and our relationship with time. It was first inspired by the great novel by H.G. Wells called The Time Machine. At the beginning of The Time Machine, before anyone does any time traveling, the time traveler is having a conversation with his friends, a doctor, a teacher, a professor. They're all gathered at his house to see what he's been doing, shut away in his office all these months. He explains time travel in a way that I found very simple and very moving.
Ce livre, Complication, contient en particulier un personnage qui nous donne une explication que je trouve vraiment intéressante sur les fantômes. Selon lui, les fantômes, ce ne sont pas tout simplement les esprits des morts. Il s'agit d'une perception de notre subconscient qui nous permet d'avoir un contact avec différentes périodes de l'univers, différents lieux aussi, et nous les percevons de façon un peu floue en quelque sorte, et je crois que c'est vraiment une excellente explication de ce qu'est un fantôme. Et tout le livre Complication que vous avez aujourd'hui présenté parle justement du temps et de notre rapport avec le temps. Ce qui m'a inspirée, tout d'abord, c'est le roman de Wells, La machine à remonter le temps. Et juste avant de commencer ses voyages dans le temps, notre voyageur est dans son bureau avec ses amis, un docteur, un professeur, etc. Et il essaie de leur expliquer le voyage dans le temps d'une façon qui est extrêmement simple, mais en même temps extrêmement émouvante.
He explains how we all travel in time by remembering. If we think back to something that has happened to us, we have in fact journeyed back in time. And I was really intrigued by this idea. I found a lot of interest and truth in it. And the book formed itself around the idea of the path not taken. We all have many, many forking paths in our lives where we come to a point of an important decision. Should we do that thing or the other thing? And I found the most natural way of exploring time and possibility would be to write from different decision points. What would have happened if you'd done one thing? What would have happened if you'd done another? How would that change you? How would that carry you forward into your own future? And all the many, many things that would be different as a result of that. And I found the form, that Claudine has mentioned, the different stories where for a while you don't quite know what you're reading. I found it the most natural way of expressing these ideas, because these ideas are, you are jumping around in your mind, you're thinking of one thing and then another, so why not actually write that out and see what would happen? That's what I did in Complication.
En réalité, nous voyageons tous dans le temps. À chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose, nous nous retrouvons dans un lieu différent, et c'est comme si nous voyagions à l'envers dans le temps. Et j'ai trouvé que cette explication était d'un côté extrêmement intéressante et de l'autre extrêmement vraie. Donc, tout ce livre est construit autour de l'idée des différents passages que nous avons ratés, en quelque sorte, de ces voyages que nous aurions pu faire. Donc, dans notre vie, nous sommes tous confrontés à certains moments à des décisions qui peuvent nous mener d'un côté ou d'un autre. Et il me semble que c'est la façon la plus naturelle de pouvoir expliquer le voyage dans le temps et les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Parce qu'il y a un moment dans notre vie, un point où nous devons prendre une décision et il va se passer une chose ou bien une autre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment ces choses-là vont changer notre vie et toute une série d'autres choses. Et je crois que c'est justement ce dont parlait Claudine quand elle parlait des différentes formes de littérature que l'on pouvait trouver dans un livre, car c'est la forme, selon moi, la plus naturelle pour exprimer cette idée d'un saut à l'autre, d'une idée à l'autre, comme nous l'avons dans notre tête, eh bien, nous pouvons l'avoir effectivement dans le temps et dans ce livre, qui est Complication.
Je poserai bien juste une petite question encore à Nina. Dans ceux qui sont capables de voir, de percevoir les fantômes, quelle qu'en soit la forme, il y a toujours, il m'a semblé qu'il y avait avec Répétition un lien d'affection, une affectivité très forte, frères et sœurs, souvent, ce lien brisé, est-ce que pour vous ça a une résonance particulière ?
Yes, I write a lot about people who have, if you like, a psychic link, that kind of closeness where their worlds overlap so much that it's almost inconceivable for one of them to go on if the other dies or if the other goes away in some other, goes on a long journey or absents themselves from their life. So the reverberations of that person remain even when that person has disappeared. And this is, of course, another form of ghosts. You are haunted by somebody, not just by their dead spirit, but by who they were in life. Your life is still bound up with their life, even when they're gone. I find this nostalgia, if you like, it's a recurring theme in my work, and it is very important. Yes.
Oui, tout à fait. Quand j'écris, c'est vrai que j'écris sur des liens psychiques entre des personnes dont les vies sont tellement superposées que la personne qui reste, en quelque sorte, ne peut pas vivre sans l'autre, que la personne qui n'est plus là soit morte, ou qu'elle soit partie très loin, ou qu'elle ait simplement disparu de la vie de l'autre. Il y a cette espèce de réverbération de sa personnalité qui reste, même si elle a disparu. Et donc, selon moi, c'est une autre forme de fantôme, même s'il ne s'agit pas en réalité de l'esprit de quelqu'un qui est mort, mais de quelqu'un qui a été très présent dans notre vie. Et c'est une espèce de nostalgie très récurrente et très importante dans mon travail.
Je pense que là, nous allons maintenant passer à Pierre. Je crois que la liaison se fait tellement de manière évidente, et pour les livres et pour tout ce que vient d'exprimer Nina, je pense qu'il y a une résonance très particulière pour toi.
Oui, j'avoue que je vis absolument dans ce climat.
qui aide à vivre d'ailleurs. Hein, c'est le l'être disparu est toujours là. Ça va au-delà du fantôme. Comment Bachelard disait que le fantôme est une fée inachevée. C'est joli, mais il y a de ça. Je pense que l'esprit, le fantôme qui nous est cher, se transforme petit à petit en fée. Je pense qu'il y a un prolongement et qui devient une réalité. C'est ça que je pense que lorsqu'on écrit, Nina a parlé justement de l'influence du compagnon secret mystérieux, de cette présence fluide qui est à côté. Il y a presque une forme d'écriture automatique, mais j'aime pas le mot, plutôt d'écriture inspirée. Où on n'est plus seul.
Oui, tu es traversé, tu veux dire, par cette écriture.
Oui. Oui, je crois qu'on est traversé par une autre écriture. Il y a quelque chose qui se passe. Et si on veut justement, ou alors on essaie de l'oublier, de la chasser, ou au contraire, on va comme Stevenson, un petit peu lorsqu'il n'avait plus d'inspiration, ou tout au moins il avait des problèmes d'inspiration, il laissait des petits cadeaux sur son bureau. Pour les brownies. Et le lendemain matin, ces petits esprits familiers quoi, avaient fait le travail, disait-il. Quoi, et là, c'est un peu ça. Le rituel d'écriture, déjà, je pense aussi, c'est pour ça que j'écris à la main. C'est que je ne veux pas de clavier ni quoi que ce soit. Et je ne veux pas d'intermédiaire. Et même dans l'écriture, il y a même comme un dessin. Où,
un rituel aussi.
Donc le... Voilà, oui, tout à fait. Oui, oui, oui.
Non, je pense que oui, Guillaume était en train de dire que c'était pareil pour lui, qu'il avait ce même rapport au papier, à la matière en elle-même.
Ça se voit dans ton écriture. Ton écriture et ton dessin sont semblables.
Oui.
Il n'y a pas de différence entre le dessin et l'écriture, quoi, pratiquement. Hein, voilà, tu pourrais très bien écrire ce
que
tu
fais
et
le voyage dans le temps dont parlait Nina.
Oui, voilà, tout à fait. Oui, oui,
c'est ton fantôme que tu couches sur le papier.
Non, je ne savais pas que tu t'interdisais de l'ordinateur. En fait.
C'est pas tout à fait ça.
C'est que je suis vraiment nul. Mais même, j'ai pas envie.
Tu n'as jamais envisagé de toucher à ça.
Non, je n'ai jamais envisagé, j'y tiens pas. Je ne veux pas justement ce clavier,
je vais me permettre de rentrer dans ta vie privée. Ouais. Mais imaginez une pièce débordante de livres, de piles de livres. Il y a des revues, il y a des magazines de cinéma, il y a des livres sur tous les sujets qu'adore Pierre, que ce soit Jack l'Éventreur, que ce soit Peter Pan, que ce soit tous les westerns que vous pouvez imaginer du moment qui ne sont pas italiens.
Voilà.
Bon, il y a tout ça, il y a des figurines partout. Et au milieu, il y a une toute petite table avec du papier, des grandes feuilles quadrillées. On a tous eu ça, je ne fais pas de publicité, mais c'est le genre Claire Fontaine, grand format, grand carreau. Et un type de stylo bien particulier parce qu'on a tous ce genre de fétichisme, et il écrit comme ça, et on a ce côté, je ne vais pas parler d'un moine médiéval, mais il y a quand même, voilà.
Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai qu'on imagine ça, enfin moi j'imagine une petite maison de Hobbit là dans Le Seigneur des Anneaux, ouais. et puis Pierre Dubois qui écrit avec une longue pipe, enfin
voilà.
J'imagine vraiment
ça. Je pense que
t'as besoin d'une atmosphère pour rentrer vraiment dans le...
Il faut qu'il ait autour de lui ce monde-là.
Tu racontes une histoire et tu te mets dans...
Sauf que ta maison est beaucoup plus grande qu'une maison de Hobbit et peut-être un peu plus encombrée.
Oui, plus encombrée. Mais c'est vrai qu'il y a une mise en condition pour écrire. Et même, par exemple, si je passe d'un thème à un autre, si j'écris une histoire de pirate, j'aime bien m'entourer d'objets qui me font songer aux pirates.
Ou alors on met un galion dans le jardin. Voilà. Enfin, voilà, des choses
comme ça. Non, mais un sabre d'abordage pas loin, tricorne, ou des images de Brut Lancastre dans Le Corsaire Rouge. Ou Errol Flynn dans Le Capitaine Blood. Ou une béquille, hein, pour penser à Long John Silver. Et si je passe, par contre, au fait, là, j'ai besoin de personnages plus fluides, plus transparents, plus lumineux, plus éthérés. Mais c'est vrai que nous, en France, on n'a pas ce climat qu'on peut trouver en Angleterre. On a l'impression qu'en Angleterre, on a une notion de la vie qui ne s'arrête pas. Pour moi, je trouve nos cimetières, par exemple, ressemblent à des parkings. C'est vraiment avec les tombes. Alors, c'est soit asphalté ou c'est des cailloux, c'est des graviers, et il y a les tombes les unes à côté des autres comme des voitures. Et bien, c'est épouvantable. Il n'y a pas un brin d'air. Moi, j'ai vu il y a très peu de temps, pourtant un vieux cimetière où on aurait dû les laisser tranquilles, il y avait une tombe d'un enfant. C'est une toute petite croix, etc. Mais plus personne n'y allait. Et cette petite, il y avait un coquelicot. Il y avait un ou deux coquelicots qui avaient poussé, et on se dit, mince, il n'y a personne qui y va, et peut-être qu'il y a un esprit, ou je ne sais pas, qui vient au moins mettre quelques graines pour qu'il ait au moins un coquelicot. En plus, coquelicot, c'est tellement symbolique.
Oui. Après,
le rouge, le sang, la vie. Et le lendemain, le jardinier avait mis du
désherbant.
Voilà, et c'est vrai que le cimetière anglais est comme un jardin. Hein, en se promenant dans le Dartmoor, par exemple, j'avais vu des poneys du oui. Dartmoor venir accoucher, enfin le mettre bas des poulains sur la tombe qui est où c'est du gazon où on peut le. Et là on a l'impression que on voit pousser des jonquilles au printemps, on voit pousser des. Il y a pas de. Le mur n'existe pas, comme dans les parcs anglais, dans les jardins anglais. Nous, on les enferme, c'est incroyable. On enferme les arbres, on enferme. Il y a le nôtre aussi qui est passé derrière avec Je ne veux voir qu'une seule tête. Elle est craque, c'est de l'architecture, c'est une architecture presque géométrique et abstraite.
Mais la nature est là pour obéir, voilà. Ça, on rigole
tandis
pas.
Tandis qu'en Angleterre, on laisse une porte ouverte. Même au parc, on peut marcher sur les pelouses et même si promener, y rêver. C'est un grand jardin et on a l'impression que c'est symbolique. L'impression que là aussi on meurt, mais il y a encore une porte ouverte où on peut rêver dessus. Hein, c'est Bram Stoker qui disait lorsqu'il eut franchi le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre. Eh bien, et d'ailleurs, il y a toujours ce franchissement de cette porte, comme Alice son miroir. Il y a encore une possibilité. Tandis que nous, on a l'impression que si on croit aux fantômes, on est taré. Quoi. On est vraiment. C'est terrible. On ne veut même pas s'offrir cette possibilité de rêver à quelque chose de beau. C'est aussi encore Barry, encore dans Peter Pan, lorsque la petite Wendy est dans le jardin. Sa maman, la voyant cueillir des fleurs, est tellement touchée par la beauté, la grâce de la petite fille, elle lui dit « Oh, j'aimerais que tu restes toujours comme ça ». Et elle se dit ben, « Juste, à partir de 5 ans, c'est déjà foutu ». Et donc, il va toujours avoir le besoin de suivre Peter Pan. Etc. Et là, il y a une possibilité, tandis que nous, à certain âge, on a l'âge de raison. Et ça, c'est effrayant. C'est qu'on est enfant, on va à l'école, l'enfant a tous les dons, pratiquement. Il peut danser, il peut chanter, il peut enfin, quelquefois mal, mais enfin, malgré tout, joue-nous une pièce, il le fait, il a son imaginaire et tout. Et les instituteurs, les institutrices, pendant un bout de temps, sont comme des Merlins, sont des prolongements ou des fées, l'aider à mieux exprimer ça, jusqu'à ce qu'on lui dit, ben, tout ça, ça ne sert à rien. Ça n'existe pas. Tu peux.
Maintenant, il faut être sérieux.
Voilà, c'est voilà. Ça. Tu as l'âge de raison. Le Père Noël n'existe pas, etc., etc. Tout ton imaginaire, ça ne sert à rien. Tu peux éventuellement faire du piano, etc. Ça te servira pour ton bac en option. Mais sinon.
Et pourquoi on est comme ça, Pierre? Alors, c'est quoi? C'est Descartes? C'est quoi? Ça par
oui.
rapport aux Anglais?
Oui, je sais. Oui, c'est ça. C'est une éducation. On ne nous permet pas de.
Je pense que c'est plus que Descartes. Hein. Ça remonte ouais. beaucoup plus loin.
Oui, c'est beaucoup plus loin, absolument. Mais on est dans cette
Rome était déjà voilà.
Oui, ben Rome, oui, justement.
On changeait la toge, on passait
rapport,
voilà.
On a choisi les latins au lieu de choisir les celtes.
Mais
pourtant,
on a choisi les latins alors que les latins étaient
pourtant, ils avaient
fous de superstition, oui, qu'ils avaient des fantômes partout. Ouais. On a choisi l'ordre et la clarté latine et grecque. Mais il y avait d'autres voies. Je pense qu'on s'est bien fait coloniser, vous les premiers là-bas, la Gaule du bas là. C'était non, mais je pense qu'on a aussi choisi ce qui paraissait rassurant.
Oui, c'est ça. On a fait ce choix, ce qui fait que quand même l'enfant, on a l'impression que lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient adulte, son fils ou sa petite fille, enfin son enfant, vient et lui dit papa, surtout s'il est perdu dans le désert, lui dessine-moi un mouton. Il va dessiner le mouton tel qu'il a arrêté de le dessiner en primaire, lorsqu'on lui a dit. Il n'a pas nourri son trait, il n'a pas appris à dessiner, mais son imaginaire non plus. Il s'est arrêté à ce moment-là et il a 7 ans, il aura toujours 7 ans pour son imaginaire, pour toute cette partie de possibilité d'aller au-delà des frontières. C'est que là, on lui a coupé à cet âge-là, il a été tronqué.
Oui, il y a quelque chose de ce qu'on trouve chez Pullman. Quand dans cette manipulation qui fait penser terriblement aux manipulations des camps nazis, on coupe les daimons des enfants qui sont leur double et qui leur apportent cette autre partie d'eux-mêmes et qui sont leur image aussi. Et on voit ces enfants qui ne sont plus rien, qui sont justement, on revient aux zombies, ils ont perdu un petit peu tout ce qui allait nourrir leur âme et développer leur personne et... C'est une autre, pour revenir à vos sujets, c'est une autre zombification. J'ai pensé en lisant vos deux livres, bon, on n'est pas du tout dans le même registre, mais c'est quand même la même question qui est posée, quoi.
Vraiment. Sauf d'être. Je vous écoutais et je pensais au rapport qu'on a effectivement à l'imaginaire. Qui évidemment nous fonde, mais évidemment je me pose ces questions aussi parce que je travaille là-dessus, c'est ma matière première, mais il y a toujours une part en moi malgré tout, et je vais aller un peu dans le sens inverse, qui se réveille peut-être parce que j'ai un vieux fond de rationalisme,
mais oui.
irréductible et très malséant, car ces rêveries et cet imaginaire nous fondent, mais ce n'est qu'une rêverie, un imaginaire et un système de représentation conventionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que vous opposiez l'esprit de sérieux, la rationalité, où on dit aux enfants c'est fini de rêver, il faut être sérieux, mais cet esprit de sérieux lui-même, cette rationalité apparente, cet esprit cartésien, comme on dit improprement d'ailleurs, lui-même n'est qu'un système de représentation conventionnelle, un rapport au monde qui n'est qu'une convention. Tout ce qu'il y a dans nos têtes n'est que convention. Même la façon dont on regarde le monde, et quand on est dessinateur, on réfléchit à ça. C'est que le monde nous arrive comme un chaos de lumière, de sensations qui sont réceptionnées par notre système sensitif, nos yeux, qui sont transmis au cerveau, qui en fait une interprétation.
Et il faut leur donner.
Et nous organisons dans nos têtes. Déjà, ça fait beaucoup d'intermédiaires dont la fiabilité n'est pas assurée, nos yeux, nos sens, notre cerveau. Et nous avons dû donner pour survivre dans ce chaos. L'univers existe en dehors de nous et nous arrive sous forme de chaos. Et nous avons dû ordonner ce chaos dans nos têtes. Et nous avons conçu tous ces systèmes de représentation conventionnels. Et l'imaginaire le plus débridé, qui nous fait vivre, qui nous fait rêver, n'est que ça. Mais l'esprit de sérieux lui-même n'est qu'un système de représentation conventionnelle du monde. Et le monde nous est inconnaissable, en fait. Et je pensais à ça, qui ne va nulle part, qui n'aboutit à rien. Mais je pensais à ça en vous écoutant.
Est-ce que les choses les plus fructueuses ne viennent pas justement du choc de ces deux tendances ?
De la tension, effectivement.
Voilà, il y a une étincelle.
Absolument, c'est la tension entre les deux qui nous fait absolument.
Oui.
Et d'ailleurs, je crois que les uns les autres, c'est ce que j'essayais de dire un peu confusément. C'est qu'effectivement je passe de l'un à l'autre en permanence et d'ailleurs ce petit livre d'ailleurs est couru de tensions de cet ordre en fait. Oui, je vais trop vite, oui, je parle trop vite, je suis trop emphatique,
c'est
trop
dur
rapide.
Pour oui, ouais. C'est dur de prendre à mesure,
je n'ai pas cette maîtrise, ouais. Voilà, c'est ce que je voulais dire qui était vraiment essentiel. Donc c'était bien, c'est vrai, ça t'a plu, c'est vrai. Je suis content d'avoir dit. Personne n'a rien compris parce que je parle trop vite. Mais
vous pouvez quand même prendre le micro.
Mais oui,
hein.
Tu avais un truc à dire. Est-ce que c'est vraiment important?
Quelque chose à dire.
Non, je suis un peu.
Est-ce que ça va être... là, en fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon?
Je vais quand même te dire que je suis d'accord avec toi et ça c'est bien, hein, tout de même. C'est vrai que moi je suis. Oui, mais je vais le répéter plusieurs fois, bien sûr. Et puis je t'embrasserai sur la joue.
Ils n'ont pas du tout répété leur numéro, hein, je vous rassure.
Non, on ne s'est jamais vu, mais c'est l'amour. C'est, voilà. Mais ça, c'est les phéromones au niveau du micro. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'ai du mal à opposer, ça me gêne toujours cette opposition entre la raison et la féerie, voilà, oui. au sens propre. Je suis pas sûr que la raison mette à ce point en danger la féerie. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement le premier ennemi de la féerie. Le premier ennemi de la féerie, c'est plutôt l'ordre. C'est plutôt l'ordre policier. Et d'ailleurs, les cimetières que tu décris, ce sont des cimetières d'ordre, quand même. Hein. Oui. Et ça dénote, à mon avis, les sociétés qui ordonnent le plus le domaine féerique, ce sont les sociétés qui ont le plus peur de la mort. C'est tout de même, le cimetière est tout de même un système de contrôle de l'inconnu, de la mort, qui habite tout être, hein, quel que soit son degré de raison.
Je crois qu'on a...
C'était pas mal.
Oui, c'est très bien dit.
D'accord aussi, du coup. Hein, c'est bien.
Merci. Ça balance, hein.
Ça balance tellement bien que je pense que le public est bourré de questions à poser. Donc si vous avez des questions, ça va être le moment. On n'a pas beaucoup donné la parole à Pierre Mirès dans l'heure suivante, donc ou si vous voulez lui poser des questions, enfin posez les questions que vous voulez.
Pour prolonger la réflexion sur le cimetière, comment vous interprétez au niveau de l'imaginaire le goût pour la profanation du cimetière?
Pour le goût
pour la profanation du cimetière.
Mais c'est tentant. Imaginaire, ça renvoie. c'est tentant la profanation du cimetière. Déjà, il y a des grilles, donc tout de suite, comme tu dis, il y a l'ordre, donc on a toujours envie de passer au-dessus des grilles. Je pense on a l'impression qu'on a même peur des morts, parce que de fermer, de les enfermer, de mettre des grilles avec des cadenas, c'est quand même incroyable. Alors que le cimetière autrefois était au centre du village et puis ouvert, hein. Et même en Bretagne, il y avait les boîtes à crânes, il y avait aussi les ossuaires où on allait. Des fois, la mort faisait partie de la vie et vice-versa. Tandis que maintenant, effectivement, tout devient une espèce de... L'ordre, il a raison, et puis quelque chose de clinique. On meurt plus chez soi. On meurt dans un hôpital. On a peur de cette mort. C'est mourir chez soi. Autrefois, on naissait et on mourait chez soi. Hein, c'est l'enfant. Voilà, l'éveillé, voilà. Alors que là, on la repousse de façon clinique. On veut plus la voir, quoi, cette mort. D'où cette peur aussi. Je pense avant, on voyait mourir et il était entouré. Il y avait des rituels aussi pour faire passer la pilule. Tandis que là, vraiment, c'est ouais.
Il y a des cultures où il y a des profanations ritualisées.
Ouais.
Madagascar, je crois.
Chez les Malgaches. On sort les cadavres, on les promène.
Oui, c'est ça. Voilà.
Il y a un certain nombre de cultures.
C'est vrai que le fait de plus voir comme ça nos morts, il y a mémé qui est rentré à l'hôpital, puis on la voit plus, elle est morte. On a une espèce de deuil comme ça qui est pas fait en fait. Et comme tu disais, Pierre, avec ces rituels et de voir le tonton là sur la table de la cuisine avec les vieux qui buvaient un coup à côté. Bon, ben voilà, on était triste, mais on faisait notre deuil, je pense, de tout ça.
Oui, les profanations récentes, elles ne touchent pas le corps. On ne va pas chercher le mort.
Elle touche les tombes.
Elle ne touche que les tombes et la symbolique des tombes. Il n'y a pas eu de...
Moi, je me rappelle d'un temps dans notre jeunesse où on allait pêcher dans la fosse commune un crâne ou quelque chose joli pour décorer son bureau.
Oui,
quoi.
Oui, c'est vrai. Oui.
Mais il y avait à la fois le sens de la profanation qui est utile à un moment, parce qu'on dépasse les limites qu'on nous a imposées. Voilà, on fait ce qui ne se fait pas. Et je pense que ça, c'est important. C'est de plus ou moins bon goût, je le concède. Ça fait sûrement un grand chagrin, mais ça, on ne le réalise pas sur le coup à ceux qui subissent ça. Mais il y a ce besoin d'aller au-delà, vers ce qui ne se fait pas. Et puis, je pense qu'il doit y avoir... Je passe sur les cas extrêmes d'une religion particulièrement visée. Hein. Il y a aussi ce désir de s'apprivoiser à la mort. Est-ce que j'ai le courage d'entrer dans un cimetière la nuit? Est-ce que j'ai le courage, si je désingue une croix, est-ce que le ciel va quand même pas un tout petit peu me tomber sur la tête? Je pense qu'on se pose à soi-même, il est possible, hein, c'est une supputation, il est possible qu'on se pose à soi-même de ces espèces d'épreuves où on défie partiellement les dieux, puisqu'on nous dit vous avez tous les droits, tout est permis, on va tout vous excuser, allons plus loin, pourquoi pas. Et là, la mort, c'est quand même un tabou ultime, malgré tout. Hein. C'est peut-être une partie de l'explication, c'est tout. Ouais. Mais
là, la profanation dont tu parles, là aussi, il y a une haine aussi d'aller... d'aller jusqu'au bout, une fois mort, on continue encore à haïr une... Ça, c'est terrible, quoi. C'est effectivement, quoi. Là, c'est un dérangement. Il y avait une question. Pose une question.
Ni un ni l'autre, même si je préfère médium. Enfin, pour ma part, je crois qu'on est un peu tous pareils. Enfin, il me semble. On crée vraiment. Enfin, on crée pas grand. Enfin, pas grand chose. On est plutôt des filtres. Je sais pas comment on peut appeler ça. Mais il y a rien de magique là-dedans. Je pense que tout le monde a cette capacité-là. On raconte ce qui nous touche par rapport à notre vécu, nos influences, ce qu'on lit, ce qu'on vit, par rapport à nos névroses. Et on restitue un petit peu ça. C'est un peu du recyclage. Moi, je vois ça comme ça, en fait. Je trouve ça beau aussi. Après, je sais pas ce qu'en pensent les autres.
Moi, je vois ça comme des Legos. C'est vraiment l'image que j'ai dans l'écriture, c'est des Lego. C'est-à-dire, j'ai une boîte avec des machins démontés et puis je clipse ça et au bout d'un moment, ça fait une maison qui est aussi un bateau, qui est aussi une chapelle, c'est plus rare, qui est aussi un réfrigérateur, etc.
Je pense quand même, je pense à Nina ou à Pierre, que je connais, bon, Pierre surtout que je connais mieux. Vous parliez de médiumnité, elle n'est pas au sens de, attention, fermer les lumières, l'esprit va apparaître, mais il y a quand même médium au sens de je suis le moyen par lequel passe quelque chose. Et ça, on en est plus ou moins doué, c'est juste le fait d'une constitution, on a les yeux bleus ou pas, on est doué, on a une oreille musicale ou pas, il y a des gens qui voient 46 couleurs là où d'autres en voient 20, il y en a d'autres qui reçoivent peut-être plus ces influences-là, mais je n'y vois pas, moi, mettons nos mains sur la table et faisons tourner, le fantôme va taper. Non, c'est juste une perception du monde qui peut être plus affinée chez certains et qui va justement leur permettre, pour peu qu'en plus ils aient l'envie, le courage et un tout petit peu le talent, je vais quand même le dire, parce que vous avez du talent, bon, maintenant, rougissez, et puis je l'ai dit, mais le talent d'en faire quelque chose, d'en faire un livre, un dessin, un tableau, un film.
C'est sûr, je crois, enfin pour moi, mais je crois pour la plupart, c'est aussi un double jeu, écrire et dessiner. Il y a une sorte de double jeu, c'est à la fois de restituer le monde, de commenter ce qu'on voit du monde, le monde sensible, sinon le monde réel qui nous est inconnaissable, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, avec les moyens de l'expression qu'on a choisi. Et c'est aussi un dialogue, j'essaie de le dire aussi un peu tout à l'heure, avec les auteurs, les maîtres anciens, écrivains, dessinateurs, qui ont éveillé en nous cette vocation et qui la nourrissent jour après jour, quoi. Et je crois aussi que c'est plutôt que dans les termes que vous avez employés, moi, je le ressens plutôt comme cette espèce de double jeu entre comme commentaire du monde, une école du regard, en fait, en quelque sorte, une manière de restituer le monde tel qu'on le perçoit, et ce dialogue avec les grands auteurs qui nous ont mis sur cette voie.
Je crois qu'il y a une autre question.
C'est moi qui ai lancé ça, merde. Essayons de développer. Oui, mais vous m'aiderez quand même. Vous interviendrez, vous ferez des... Parce que... qu'est-ce que je voulais dire par là, finalement? Je pensais beaucoup aux morts. Hein. Je pensais particulièrement à cette sphère-là, quoi. À l'après-vie. À l'après-vie du point de vue des vivants. Tous les protocoles et les rituels mortuaires sont des rituels et des protocoles d'ordre. Il faut éviter à tout prix que le mort revienne, parce que le désordre, ce serait que le mort revienne. Mais je ne réponds pas à la question de monsieur, je le sens. Je le sens.
Mais vous pourrez vous voir après, parce que là, on arrive vers la
fin
de
l'heure. Oui, mais je ne répondrai pas non plus à la question.
Oh, les pieds dans le feu, on répond toujours. Non, vous disiez que le mort ne revient pas, mais il y a quand même quelques cultures, tu parles de la culture celtique, entre autres, mais ce n'est pas la seule, où il y a des moments très limités dans l'année, des cérémonies, où justement, les vivants chez les morts chez les vivants.
Ça aussi, c'est de l'ordre.
C'est de l'ordre, enfin, c'est un ordre qu'on a institué, donc... on n'est pas non plus obligé de rester bloqué dans l'ordre qu'on a institué, mais c'est un ordre, mais c'est aussi une réappropriation, une façon de se rassurer, de se dire que tout n'est pas fini, que cette prolongation qui peut se jouer dans les œuvres d'art, dans les œuvres tout court, ou dans la présence plus ou moins ressentie, plus ou moins réelle, ça on peut en débattre longtemps, existe quand même, mais je pense là encore qu'il y a besoin de se rassurer.
Et quand on n'est plus dans l'ordre institué, on est dans la magie. Oui.
Mais la magie est aussi... la magie n'est pas une folie qui part en l'air, c'est extrêmement construit.
Oui, mais moi, je dis ça d'un point de vue ethnologique.
Oui, quoi, hein, c'est ça. Voilà. Il n'y a rien de plus rigoureux qu'une manipulation magique. Il y avait une dernière question. approchez-vous. Parce que je peux pas envoyer le micro, je pense.
You're absolutely right about cemeteries and Britain and the English. In Victorian times, in London especially, and in the great civic parishes, it was actually a Sunday occupation for Victorian families to go and visit cemeteries. And they'd take the whole family, sit around, have a picnic, and just sort of generally hang out with the dead. That was completely normal in Victorian England, and to an extent, it still continues. In London, we have what are known as the Magnificent Seven, the great cemeteries, Kensal Green and South Norwood Cemetery, and Brompton, wonderful cemetery. There are actual guidebooks to them, and people love them. We go there, we feed squirrels, we walk around the tombs, we like looking at the different tomb ornaments. They all have their own very different atmospheres as well. I always felt that with Brompton Cemetery, it was quite ghosty, quite sinister, whereas Kensal Green is a very, very friendly place and quite wild. I think someone was saying about the way English cemeteries look, it's very different from French cemeteries, and it's certainly true of some of the, there's one up in Stoke Newington and Kensal Green again, where they're almost like nature parks, and bits of them are reserved for wildlife. And I think we are still fascinated, and ghost stories and our fondness for ghost stories reflects that. Every Christmas on television and radio, you will find one of the most popular types of program is the ghost story. People associate them with Christmas, with good times. It is a way of retaining that contact, I think, with the people that have gone before. And I think it's still very much alive in our culture. I've only visited a very few cemeteries in France. I've visited Pierre Lachaise, which seems it's a bit like, I suppose it's a very famous one. So there's many tombs of writers and artists and other great notable people from French culture. So that's almost a showcase cemetery, I guess. Maybe it is the French love of the rational and the intellect and the enlightenment that has, in a sense, tried to push aside the idea of ghosts and other creatures that cannot be explained. We cannot explain, we cannot even verify what people are seeing or feeling. And if it cannot be verified, maybe there is a fear of it. I wouldn't want to say too much about French cemeteries because, as I say, I'm not so familiar. But maybe there's something in that.
Ce que l'on a dit sur les cimetières anglais est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, à l'époque victorienne, c'était une habitude des familles de se réunir le dimanche dans les cimetières et de pique-niquer autour de la tombe de nos chers disparus. C'était en quelque sorte une façon de garder le contact avec eux. Et encore aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les sept magnifiques. Il s'agit de cimetières très célèbre de Londres. On a même des guides sur ces cimetières, en particulier le cimetière de Brompton et le cimetière de Kensal Green. Yes. Et les gens adorent se promener dans ces cimetières. On y va le dimanche toujours. On donne à manger aux écureuils. On se promène autour des tombes. On regarde comment elles sont décorées, etc. C'est quand même des cimetières qui ont des atmosphères très différentes. Par exemple, celui de Brompton, c'est un petit peu lugubre. Hein. On a l'impression qu'il y a des fantômes là. Alors que Kensal Green, par exemple, a une atmosphère très amicale. Et c'est vrai que c'est une façon de voir les cimetières qui est tout à fait différente de ce que l'on peut voir en France. Il s'agit de... presque de parcs naturels, hein. Il y en a même qui sont des réserves naturelles, imaginez. Donc c'est vrai que nous avons toujours été effectivement fascinés par les fantômes, que nous aimons beaucoup les fantômes dans notre pays, et ceci se reflète dans la vie des Britanniques tous les jours. Pour Noël, par exemple, à la télévision et à la radio, ben, les programmes, les émissions préférées sont toujours les histoires de fantômes qui sont associées aux périodes de fête, au moment où on se sent bien, à Noël. C'est, comme je vous le disais, une façon de rester en contact avec nos chers disparus, de les garder vivants, en quelque sorte. En ce qui concerne les cimetières français, je n'ai vraiment pas beaucoup l'habitude. J'ai juste visité le Père Lachaise. Je pense qu'il s'agit d'un cimetière plutôt célèbre, parce qu'il y a des artistes, des écrivains, des personnalités remarquables de la vie culturelle française qui sont enterrées. Et c'est donc plutôt une vitrine, hein, en quelque sorte, qu'un cimetière normal. Et en ce qui concerne... Et en ce qui concerne effectivement la façon dont les Français voient... ont leur propre cimetière, je crois que c'est lié à leur esprit rationnel, intellectuel, au fait que le siècle des Lumières, en quelque sorte, a éliminé l'idée des fantômes, des créatures pour lesquelles on n'a pas d'explication, qu'on ne peut pas vérifier. Donc, si on ne peut pas effectivement vérifier ou expliquer quelque chose, eh bien, c'est quelque chose qui fait peur. Mais pour le reste, je ne connais pas assez les cimetières français pour m'exprimer.
Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on va s'en tenir là. L'horaire, vous savez, cette inévitable horloge qui continue à tourner, a fait son œuvre. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je remercie beaucoup nos auteurs qui ont vraiment nous ont apporté énormément ce matin. Je vous demande de les applaudir, bien sûr. Et puis d'applaudir aussi notre traductrice-interprète et que ce soit Complication, Ma famille normale contre les zombies, Brainless, Billy Brouillard, Les effroyables encyclopédies et les bandes dessinées de Pierre, eh bien vous pouvez tout retrouver bien sûr sous le grand chapiteau du Salon du Livre. Voilà, merci encore.